Vous écoutez
RMC.
Bon réveil à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, vous êtes à l'écoute d'RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et le journal de 7h, c'est le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Des routes transformées en patinoires. Attention, si vous prenez le volant ce matin, 75 départements sont en vigilance. Neige et verglas, branle-bas de combat. Plusieurs milliers d'agents seront mobilisés tout le week-end. Pas de place à la polémique. Notre nation doit être lucide et unie. La réponse de la ministre aux armées, Catherine Vautrin, défend le chef d'état-major aux armées après ses propos. Et un professeur d'école de maternelle menacé à Rennes par un parent d'élève, il refuse que sa fille est un homme comme enseignant.
C'est poétique, mais c'est galère. Du blanc sur nos routes ce matin.
Oui, des flocons sur plusieurs régions. L'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes également. Plus de 70 départements, je vous le disais, sont en vigilance jaune. Neige et verglas, c'est le cas de la Normandie où la neige est tombée hier. Conséquence ce matin, ça glisse. Et le week-end s'annonce particulièrement compliqué sur les routes. Alerte du ministre des Transports hier, Philippe Tavaro, invite les automobilistes à la prudence et annonce la mobilisation de 7700 agents déjà sur le pont Vincent Chevalier.
Parmi les départements concernés, la Loire, les prévisions annoncent des températures glaciales et quelques flocons du côté de Roanne, par exemple.
Dès lors qu'on a une alerte, on est beaucoup plus vigilant.
Frédéric Fournier est le chef du service du pôle voie publique.
On a une équipe de 4 agents qui sont d'astreinte toutes les nuits pour pouvoir armer 2 engins. Aujourd'hui, on a en stock 180 tonnes de sel.
Surveillance accrue aussi sur l'A89, particulièrement dans le Massif central où des opérations de prévention ont déjà eu lieu, selon Morgane Sauzet, chef des services exploitation et sécurité chez Vinci Autoroute.
Ce qu'on appelle du déneigement curatif, des équipages de chasse-neige qui ont raclé la route pour justement enlever la neige qui était sur la chaussée.
Avec ses 60 millions d'euros de budget pour la viabilité hivernale des routes, la Haute-Savoie est l'un des départements les mieux équipés, mais les automobilistes ont aussi leur rôle à jouer, rappelle Martial Sadier, le président du conseil départemental.
Il ne faut pas tout attendre des chasse-neige, mais que si on en montagne, il faut mettre des pneus neige. C'est quand même le premier vrai moyen de ne pas se retrouver dans le fossé.
Cette vigilance se prolongera au moins jusqu'à demain. Ce samedi devrait être la journée la plus froide de la semaine.
Face au narco-banditisme, la société marseillaise doit se réveiller. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice appellent ce matin un sursaut dans les colonnes de la Provence au lendemain de leur visite à Marseille à la veille d'une marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi assassiné la semaine dernière. Ils reconnaissent une bataille très très dure face au narcotrafic.
Et la réponse pourrait aussi venir de Bruxelles.
Le ministre des Affaires étrangères y a plaidé hier la mise en place d'un régime transversal de sanctions contre le crime organisé. L'idée, ce serait de taper au portefeuille des trafiquants, cibler les criminels actifs hors de l'Union européenne, geler leurs biens, les empêcher de revenir et les bloquer de transactions financière, si de telles sanctions venaient à être adoptées, Guillaume Bié, leur efficacité fait débat.
Oui, une telle mesure, même au niveau européen, ne serait pas assez pénalisante, explique Bertrand Monnet, spécialiste de l'économie du crime.
Je pense que c'est de nature à en gêner certains, mais après, beaucoup de gros narcotrafiquants et de grands blanchisseurs ne vivent pas dans l'Union européenne, et donc pour ces gens-là, ça n'aura aucun impact.
À l'inverse, saisir directement les biens des trafiquants à l'étranger, comme le ministre de la Justice vient de l'obtenir pour une 30aine d'appartements à Dubaï, ce serait beaucoup plus efficace pour lutter contre le blanchiment, souligne Bertrand Monnet.
Faire pression sur des paradis bancaires et avant tout sur Dubaï pour qu'ils saisissent notamment des actifs immobiliers. Ça, c'est très neuf et ça gêne beaucoup les narcos. Alors après, seul le gouvernement français n'arrivera pas à grand-chose, malheureusement. Mais une action concertée vraiment internationale sur ce sujet-là, à mon avis, oui, elle serait de nature à être très efficace et vraiment à gêner les blanchisseurs.
Un axe majeur de lutte contre le narcotrafic qui représente 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France.
Guillaume Bié, chef du service police justice RMC. Après la polémique, les clarifications, la ministre des armées vole au secours du chef d'état-major des armées 2 jours après ses propos. Il estimait que les Français devaient accepter de perdre des enfants en cas de guerre. Des mots sortis de leur contexte, dit Catherine Vautrin.
Nous devons anticiper, entraîner nos armées, nous réarmer, mais aussi il est important que notre nation soit à la fois lucide et unie. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de place pour la polémique, surtout dès lors que cette polémique est issue de petites phrases sorties de leur contexte. Elles n'ont finalement qu'une finalité, nuire aux intérêts de notre pays.
Une manière de préparer les esprits à l'image du plan d'Emmanuel Macron qui pourrait annoncer dans les jours à venir un service militaire rénové sur base du volontariat.
Alors sur la base du volontariat, d'ailleurs, est-ce qu'il fallait le penser obligatoire ce service militaire à l'ancienne, si j'ose dire? On sera avec l'ancien directeur de l'école de guerre, le général Vincent Desportes, dans quelques toutes petites minutes, mais avec vous surtout au 32-16. Il est 7h05 sur RMC.
Pas de classe ce matin dans 4 écoles de Rennes en grève. Le corps enseignant défend un directeur d'établissement, professeur de grande section de maternelle menacé sur son lieu de travail par des parents. Ils refusaient qu'un homme enseigne à leur fille. Des menaces accompagnées de propos révélant de l'outrage sexiste, de la diffamation et du mépris. Martin Lange avec Solène Leroux pour RMC.
Le 10 octobre dernier, cet enseignant de grande section reçoit une famille qui lui demande de changer leur fille de classe. Inconcevable pour eux qu'elle soit encadrée par un homme. Michael Bezard, secrétaire départemental du syndicat des professeurs des écoles.
Il a refusé puisque c'est pas une raison valable.
Des raisons personnelles, sans motif religieux, assurait hier le ministre de l'Éducation. Le refus de changement de classe n'est en tout cas pas passé du côté de la famille.
Il était gravement menacé par des menaces de mort indirectes. Le collègue est profondément atteint, meurtri de cette situation. Il est arrêté depuis plus d'un mois.
Ses collègues réclament un changement d'établissement de l'élève. Fabrice Le Récif, secrétaire départemental de Force Ouvrière.
Je choisirais le genre, je choisirais la couleur des enseignants, leur origine. Tout ça est contraire à la laïcité. L'école publique, c'est pas une plateforme. On n'achète pas ce qu'on veut dans l'école publique. Il faut des actes forts de l'administration qui montre qu'elle protège ses agents et qu'elle lâchera rien. Au-delà des agents même, c'est la République qu'on défend.
Une plainte a été déposée. La famille, avec qui le rectorat a déjà échangé pour un rappel du cadre légal, a de nouveau été reçue hier soir.
Autre agression dans le Nord, celle d'un médecin. Conséquence, 3 antennes SOS Médecins à Tourcoing, Roubaix et Lille resteront portes closes jusqu'à demain 8h. Le directeur de l'antenne locale part d'une expédition punitive. Il dénonce des actes de plus en plus nombreux dans le département. Et puis cet incendie à Bellem, en marge de la COP30, obligeant l'interruption des débats pendant plus de 7 heures. Ils vont reprendre ce matin les débats, ce vendredi, dernière journée, pour tenter de s'accorder sur le financement et une feuille de route sur la sortie des énergies fossiles.
Après 2 semaines de trêve internationale, c'est le retour de la Ligue 1 ce soir.
Et ça débute par la réception de Nice qui reçoit Marseille avec un Benjamin Pavard, titulaire, recrue phare de l'été. Les débuts réussis du champion du monde sur la Canebière ont laissé place au doute, Florent Germain.
Oui, malchanceux et maladroit. Un mauvais placement et un ballon dévié qui font perdre l'OM à Lisbonne. Un but contre son camp et un pénalty concédé à Lens. Benjamin Pavard a souffert avec l'OM en octobre, mais les supporters marseillais gardent tous confiance en lui. Enfin, presque tous.
Ah, il est agaçant, hein, Ligue des Champions, il nous a tué le match. Oui, il défend bien, il a fait une grande carrière. Maintenant, on verra ce qu'il va faire à l'OM.
Titulaire à l'Inter, titulaire au Bayern, c'est pas l'OM qui le fera peur.
Pavard, ça reste quand même une bonne recrue. Recrue internationale, on a besoin de ça. L'année dernière, on a eu Rabiot, c'était un on n'a pas vu.
Dans le vestiaire, ses coéquipiers le soutiennent, notamment le milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia.
Je vois le même Ben que quand il est arrivé. Je le vois serein, on est content de lui. Il n'y a pas vraiment de sujet Benjamin Pavard.
L'entraîneur italien Roberto De Zerbi compte sur l'expérience du champion du monde 2018. Pavard doit garder le moral.
C'est un garçon sensible. Il a été affecté par ses 2 ou 3 actions malheureuses. On est tous avec lui. Il doit faire du Pavard et basta.
En l'absence en défense du taulier Naïef Aguerd, Benjamin Pavard aura ce soir l'occasion de se racheter à Nice.
Et le début de la 13e journée de Ligue 1, c'est ce soir 20h45 sur AMC. L'autre événement du week-end sur notre antenne, c'est le tout dernier match de la tournée d'automne du 15 de France. Ce sera face à l'Australie demain soir au Stade de France.
Merci beaucoup Thibaut Texer, c'était le journal. Vous êtes sur RMC, très bon réveil à toutes et à tous. On accueillera Julien au 32-16 dans un instant, mais il veut nous parler du service militaire. Plutôt pour, il sera en direct du coup avec le général Vincent Desportes. Vous restez bien sur RMC, 7h08.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
7h12 sur RMC, très bon réveil à toutes et à tous. L'armée française au cœur des débats cette semaine. On compte 200 000 militaires en France, 40 000 réservistes, la deuxième force militaire d'Europe. Mais il faut croire que ce n'est pas assez. La guerre change, les conflits et les tensions se multiplient. Bonjour général Vincent Desportes.
Oui, bonjour.
Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre. Le président de la République s'apprête à annoncer un nouveau service militaire sur la base du volontariat. Général, votre parti pris, nous avons besoin de jeunes qui s'engagent. On manque de 109 dans l'armée.
On manque. Notre armée n'a pas suffisamment de masse. Elle n'est pas suffisamment grande pour faire face aux défis qui viennent. Or, nous ne pouvons plus davantage faire appel aux professionnels. C'est une C'est un problème de capacité de recrutement dans une classe d'âge. Donc, il faudra trouver d'autres façons d'avoir des soldats, des marins et des aviateurs. Donc, il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que de faire appel au contingent. Maintenant, évidemment, on n'a pas besoin d'avoir toute une classe d'âge qui sont 800 000 jeunes femmes et jeunes hommes. Donc, il faudra faire appel à des volontaires qui feront le choix intelligent de venir servir la France pendant quelques mois, peut-être quelques années, contre évidemment un certain nombre d'avantages qui leur seront offerts.
Bon, on va détailler ensemble, général Vincent Desportes, vous avez déjà évoqué plusieurs aspects de ce débat, mais ce service militaire, c'est presque une arlésienne, hein. On a longtemps voulu le rendre responsable ou capable d'éduquer la jeunesse ou d'autres choses. Là, c'est différent, on parle de nos capacités militaires. Mais le débat, il revient régulièrement depuis 97. Alors, comme le réclame le Rassemblement National, pourquoi ne pas aller vers un service militaire, un service national obligatoire pour toute une classe d'âge, comme vous le disiez?
Eh bien, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait incorporer, aujourd'hui une classe d'âge c'est 400 000 jeunes hommes et 400 000 jeunes femmes, et que nous n'en avons pas besoin au titre de la défense, et donc on en aurait besoin effectivement comme un service d'éducation ou de rééducation. Maintenant évidemment ça coûterait une fortune, nous ne savons pas où les loger, nous avons vendu 90% de nos casernes pour 1 euro, s'il fallait les reconstruire ce serait des milliards. Donc nous n'en avons pas les moyens, ça demanderait également de recruter beaucoup et de former beaucoup d'officiers et de sous-officiers, nous n'en avons pas les moyens. Aujourd'hui, le problème, c'est la défense de la France. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et là, il faut trouver un certain nombre de réservistes ou de volontaires qui viendront. Mais nous n'avons évidemment pas besoin d'une classe d'âge entière sur les drapeaux.
Alors, Julien est en ligne avec nous. Général, on va l'écouter, on va l'accueillir. Julien, dans l'Allier, au 32-16, conducteur routier. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour, oui.
Vous êtes plutôt favorable, vous, à l'idée d'un service national relancé, comme s'apprête à le relancer Emmanuel Macron?
Comme il s'apprête à le lancer, on va dire que ça existe déjà. Le volontariat, c'est de l'engagement militaire, tout simplement. Ceux qui veulent être volontaires, c'est des gens qui s'engagent. Il n'y aura pas plus de personnes que tout de suite. Après, moi, je dis, ce qu'il faudrait faire réellement, c'est les jeunes entre 18 et 25 ans. Eh ben, si jamais ils travaillent pas ou ils font pas d'études, parce qu'on sait que dans le temps, ça a pu casser des carrières ou des études de certaines personnes, ils travaillent pas ou alors ils ont pas d'études, eh ben, au service militaire, au moins, celui qui veut pas faire le service militaire, il ira travailler. Et celui qui travaille pas, eh ben, il fera le service militaire.
Ouais. Enfin, c'est marrant parce qu'on a, alors là, l'actualité, Julien, et je vous garde en ligne avec nous et j'ai envie que vous parliez avec le général Vincent Desportes. L'actualité nous fait parler de l'Ukraine, de la menace, et on va y venir aussi au propos du chef d'état-major des armées, Vincent Desportes. Mais là, on retrouve encore ce rôle du service militaire. On a envie de lui donner un rôle d'éducation, on a envie de lui donner un rôle de creuset républicain. Là, c'est pas ce que vous dites. Là, vous dites on a besoin de troupes.
On a besoin de troupes, tout simplement. On a besoin d'une armée qui soit capable de faire face aux défis. Aujourd'hui, l'armée française est une très bonne armée, mais qui a été préparée pour une autre mission. Aujourd'hui, on risque, Gérald Mandon l'a dit, et tout le monde le dit, on risque de rentrer dans une guerre tout à fait différente. Et si nous ne sommes pas prêts à cette guerre, nous serons obligés de la faire. Donc, il faut augmenter le volume des forces armées. Il n'y a pas d'autre choix.
Et Julien, vous avez fait l'armée, vous, Julien?
Non, moi j'étais la première session à faire la journée d'appel. Moi, j'étais la première session à faire la journée d'appel.
Je vois votre âge, on est de la même génération, mais certains se sont engagés justement. Je pense à beaucoup de témoignages de conducteurs routiers qu'on a pu recevoir ici au fil des années, des conducteurs routiers qui ont passé leur permis routier dans l'armée justement. C'est aussi une forme de formation qui leur a été offerte ainsi. Julien, restez avec nous, on va réécouter le chef d'état-major des armées, le plus haut gradé, un de nos militaires, qui a fait polémique cette semaine avec cette petite phrase, il a au moins lancé le débat. Mardi, c'était au Congrès des maires de France, on réécoute.
Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement, si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque.
Que nous, Français, nous soyons prêts à perdre nos enfants. Général Vincent Desportes, vous comprenez l'émoi que ça a suscité?
Alors, je comprends les mots, comme l'a dit fort justement notre ministre de la Défense, c'est des mots qui sont sortis de leur contexte. Qu'a dit le général Mandon? Il l'a dit comme il l'a dit, mais il a dit au fond, aujourd'hui, nous devons être prêts à défendre nos valeurs, nos façons de vivre, etc. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, si vous ne voulez pas le faire, alors vous êtes en danger, alors vous risquez d'être attaqué. Donc aujourd'hui, vous savez, les Américains disent, la liberté n'est pas gratuite, et je crois que c'est important. important. Nous sommes aujourd'hui dans un, où nous sortons d'un paradis artificiel où nous pensons que la démocratie est une donnée, que la liberté est une donnée. Eh bien non, elles ont un coût, il faut la défendre. Et ce coût, effectivement, bah, il est économique. Et puis, quand on fait la guerre, quand on est prêt à faire la guerre, eh bien forcément, la guerre, il y a toujours des morts. C'est exactement ce sens-là.
Mais on est où là, en ce moment, dans l'histoire, dans le contexte, dans le Parisien ce matin, je lisais une source à Matignon, une source anonyme, qui dit on n'est pas en guerre, mais on n'est plus vraiment en paix. C'est la guerre, général.
On n'est pas vraiment en paix, c'est-à-dire qu'on est dans un état de pré-guerre, si vous voulez. On a été comme ça au début des années 1900, on a été comme ça juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et les Français n'y ont pas cru.
Mais alors comment, en fait, général Vincent Desportes, vous parlez à un civil qui n'a jamais porté le moindre uniforme. J'ai envie de comprendre, parce que la question revenait assez souvent hier aussi dans les messages, j'ai envie de comprendre comment on programme une guerre. Il y avait un auditeur qui nous disait on programme la fin d'un crédit immobilier, on programme un mariage ou l'arrivée d'un bébé, mais comment on est capable de dire que dans 3-4 ans, on va avoir un choc, on va avoir une guerre de haute intensité. On a du mal à comprendre ça, général.
Eh bien, je vais vous l'expliquer. D'abord, tous les services de renseignement européens qui sont différents et qui ont des sources différentes disent oui, il y a un risque et ce risque est grand. Et on ne peut pas ne pas prendre en compte le pire. Et donc, il faut se préparer à ce pire. Pourquoi 3 ou 4 ans? Eh bien, pour une raison simple. Alors, c'est un pari, c'est une hypothèse. Mais on peut penser que la guerre en Ukraine se terminera dans l'année à venir. Enfin, tout le monde peut le souhaiter. Et vraiment, c'est souhaitable. Et donc, on sait que pour l'armée russe, il faudra 2 à 3 ans pour se remettre en état de reprendre son agression vers l'ouest sur un des points faibles de l'Europe, qui pourrait être les Pays-Baltes, par exemple. Et donc, on a 2 ou 3 ans. Nous-mêmes, d'ailleurs, il nous faut quelques années pour nous mettre à la hauteur de la menace. Donc, ce qui est raisonnable, en tout sens du terme, c'est dans 2 ou 3 ans, puisque c'est possible, d'être suffisamment dissuasif pour que cette guerre n'arrive pas. Et si nous ne sommes pas assez dissuasifs, alors effectivement, comme le dit le général Mandon, nous sommes en risque.
Ouais, donc, il faut montrer les muscles, c'est ce que disait aussi le général Dominique Trinquant ici sur ce plateau hier. Se montrer fort pour éviter la guerre aussi. Alors on parle de la Russie de 2030, d'un choc à venir, d'un conflit de haute intensité. Dernière question, parce que Fabrice Mandon, le chef d'état-major des armées, explique aussi, dans ce même discours, et ça on l'a moins remarqué, qu'au Pentagone, aux États-Unis, les horloges indiquent un compte à rebours vers 2027 et une probable invasion de Taïwan par la Chine. En fait, c'est pas la guerre, c'est la guerre mondiale qu'on est en train d'organiser là.
Eh bien, vous savez, hélas, nous ne sommes pas sortis, je l'ai dit, du paradis artificiel dans lequel nous avons vécu. Nous sommes revenus à la normalité historique. Et la normalité historique, c'est que ce n'est pas la paix qui est éternelle, c'est plutôt la guerre. Et que le monde, en fait, a été produit par des rapports de force et des guerres. Eh bien, pendant 80 ans, le monde a été régulé, il y a eu un gendarme du monde, et ça ne s'est pas passé comme ça. Eh bien, aujourd'hui, par faiblesse, par évolution, eh bien, on est revenu à une normalité qui, je vous rappelle, a fait 80 millions de morts au XXe siècle. Et donc, on l'a évité, ce retour, pendant 80 ans, et aujourd'hui, nous sommes replongés dedans. Eh bien, effectivement, nous devons retrouver les moyens de ne pas être blessés ou détruits par cette normalité.
D'être prêt au moins, général Vincent Desportes, merci beaucoup. Merci pour cet éclairage ce matin. Je pense que nos auditeurs en avaient besoin. Ancien directeur de l'école de guerre, l'armée au cœur des débois, Didier François, expert défense de BFM TV, sera l'invité du face-à-face à 8h30. Et vous, j'allais dire bon réveil quand même. On vous annonce la guerre mondiale. Bon réveil quand même, mais ça vous fait réagir, j'en suis certain. Vous composez le 32-16 ce matin. Merci à Julien qui était en ligne avec nous sur le service national. Il est 7h22.
RMC, Apolline Matin.
7h23 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, avec vous, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
On révise les classiques. Arthur, Carlos évidemment. D'après des scientifiques de l'université d'Oxford, le baiser sur la bouche se pratiquait déjà il y a 2 100 000 années. Et pour vous s'embrasser, c'est la raison d'être de l'humanité.
Et oui, cette étude en est la preuve, hein, puisqu'elle montre que l'ancêtre commun de l'homme et du grand singe pratiquait déjà le baiser sur la bouche. S'embrasser, ça a toujours symbolisé ce que l'homme a de meilleur en lui, l'amitié, la loyauté et bien sûr l'amour.
Et avant cette étude, on ne savait pas depuis quand le baiser existait.
Si, mais on pensait que c'était beaucoup plus récent. On a des fresques égyptiennes d'il y a 4000 ans où on voit des gens se faire des bisous, donc a priori, c'est que c'était déjà agréable. Et sous l'Empire romain, ça va devenir un acte très politique à Rome. Vous embrassiez sur la bouche les gens qui faisaient partie de votre famille, mais aussi les gens qui appartenaient à la même classe sociale que vous. Donc par exemple, si vous étiez sénateur, vous embrassiez tous les sénateurs que vous croisiez dans la rue.
Et comment ça va évoluer?
Alors au Moyen-Âge, clairement, ça se calme un peu, mais le baiser ne disparaît pas. C'est toujours un peu politique, puisque c'était un acte qui symbolisait la loyauté, la fidélité, et ça se pratiquait dans les ordres religieux. Prenez par exemple l'ordre des Templiers. C'était un ordre de moines-soldats. Quand vous entriez dans cet ordre, il y avait un rituel d'admission. Il fallait se déshabiller et une fois nu, tous les autres membres de l'ordre venaient vous faire des bisous, mais pas dans n'importe quel ordre. D'abord sur les fesses, ensuite sur la bouche et enfin sur le nombril. Et là, vous étiez admis.
J'aurais pas choisi cet ordre-là. Mais bon, quand est-ce qu'on commence à avoir une connotation sexuelle autour du bisou?
Alors, ça commence à partir du XVIIIe siècle. Hein, que le XVIIIe, c'est le siècle de la galanterie, du libertinage. Maintenant, quand on s'embrasse sur la bouche, c'est évidemment pour devenir amant. C'est aussi à cette époque que le mot « baiser » prend un autre sens que Mathieu, je n'ai pas besoin de vous expliquer.
Alors le baiser deviendra aussi un symbole, évidemment, du cinéma.
Bah bien sûr, un des tout premiers films réalisés, ça s'appelait d'ailleurs The Kiss, hein, le bisou en anglais. Ça date de 1896, c'était réalisé d'ailleurs par les inventeurs du cinéma, les frères Lumière. Alors c'était un film très court, hein, à peine une minute, et la dernière séquence, c'était un baiser entre deux amants, le tout premier baiser du cinéma, Mathieu.
The Kiss, et après on a parlé de French Kiss.
Oui, les Américains ont inventé cette expression puisque pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, des soldats américains sont venus en France pour faire la guerre et ils vont découvrir les Françaises. Et au moment de les embrasser, ces Françaises, surprise, elles mettent la langue, ce qui évidemment ne se pratiquait pas du tout aux États-Unis. Donc, quand les soldats sont rentrés en Amérique, ils ont exporté la pratique et ils lui ont donné le nom de son pays d'origine, le French Kiss.
Mais c'est si récent que ça, en fait, ça vraiment c'est le débarquement,
ouais.
Quoi. C'est...
Ouais, ouais, ouais.
Le French Kiss.
La prouille, oui.
Et le baiser de cinéma, évidemment, mythique. Merci Arthur Chevalier.
Merci Mathieu.
L'histoire qui éclaire notre actualité tous les matins. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30 avec, dans la demi-heure qui vient, Marseille qui s'apprête à marcher demain contre le narcotrafic. Emmanuel Macron a pointé la responsabilité des consommateurs. Mais il y a un débat qui surgit, qui ressurgit. C'est un vieux débat. Faut-il légaliser le cannabis? Débat voix de droite, voix de gauche ce matin avec Charles Consigny qui sera face au député Benjamin Lucas. Rendez-vous à 7h50, vous intervenez au 32-16. Et puis juste avant, à 7h40, l'immobilier qui repart, les crédits décollent, les acheteurs affluent. On fait le point avec Sandrine Allonier qui est porte-parole de Vous Financer. Vous restez à l'écoute, est-ce que c'est le bon moment pour acheter, pour vendre, pour investir? On vous donne toutes les clés. Et puis à 8h50, vous le savez, hein, vous avez rendez-vous avec Canteloup, face à Canteloup, la semaine de Canteloup, juste après le face-à-face sur RMC, il est 7h27. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Opération déminage sur la hausse surprise de la taxe foncière annoncée cette semaine. Le gouvernement va finalement lancer une consultation avant de faire grimper la note. Aura-t-on un budget l'an prochain? En cas d'impasse au Parlement, le gouvernement prévoit de reconduire temporairement celui de cette année grâce à une loi spéciale. Et puis après des mois à faire escorter ses salariés par des agents de sécurité privés, BNP Paribas fait le choix de quitter le quartier Rosa Parks d'Aubervilliers.
Le gouvernement semble donc rétro-pédaler sur l'augmentation de la taxe foncière.
Il espérait probablement que cette hausse, 63 euros en moyenne pour plus de 7 millions de logements, passe inaperçue. C'est raté, la mesure a provoqué un tollé. Et alors que cette nouvelle méthode de calcul devrait entrer en vigueur dès l'an prochain, l'exécutif appuie sur le frein Romain Houg et lance une consultation.
Oui, l'objectif de cette consultation flash, c'est de simplifier le calcul de la taxe foncière, de la rendre plus transparente, plus clair et plus équitable. Le Premier ministre Sébastien Lecornu lui-même a reconnu hier devant les maires de France qu'il fallait sans doute réviser la manière dont on calcule cette taxe. L'exécutif va recevoir dans les prochains jours l'ensemble des acteurs, les parlementaires de tous bords et les collectivités territoriales, car cette mise à jour de la méthode de calcul a fait bondir de toutes parts les responsables politiques. En fait, il est question de prendre en compte la présence dans les logements d'éléments dits de confort, lavabo, WC, eau courante, électricité, autant d'éléments qui augmente artificiellement le nombre de mètres carrés et donc augmente mécaniquement le montant de la taxe foncière. En moyenne, la hausse devrait être de 63 euros pour les 7,4 millions de logements concernés. En 10 ans, cet impôt a déjà augmenté de 37,3%.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. À l'Assemblée, les débats sur le budget s'éternisent. Le vote de la partie recette pourrait avoir lieu ce soir ou dans le week-end et son rejet par les députés est quasiment certain. Les taux se resserrent, les délais seront difficiles à tenir. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a annoncé hier qu'il présenterait un budget de loi spéciale, Cyprien Pézeril, pour reconduire le budget de cette année.
Oui, une loi spéciale comme il y a un an, une rustine pour prolonger provisoirement le budget de l'année précédente, éviter un shutdown à l'américaine et permettre à l'État notamment de continuer à percevoir les impôts. Le gouvernement affirme que le vote d'un budget avant le 31 décembre reste l'objectif numéro un, mais il semble de plus en plus hors d'atteinte. Les débats s'enlisent sans émergence de consensus. Utiliser une loi spéciale, c'est donc l'option qui s'imposerait, d'autant que le Premier ministre a renoncé au 49-3 et cela éloigne aussi le recours aux ordonnances qui font hurler les oppositions parce qu'elles contournent le Parlement. Le Cornu a compris que le renoncement à des procédures brutales diminue les motifs de censure. Se satisfait un socialiste. Une loi spéciale pour laisser donc du temps. Les débats parlementaires reprendraient au début de l'année prochaine, assure un conseiller, avec l'espoir de parvenir enfin au compromis.
Il est 7h33 et c'est un départ qui aurait pu être évité. Voilà ce que disait ce matin sur RMC la maire d'Aubervilliers, Karine Franklay, après la décision prise par BNP Paribas de quitter le quartier Rosa Parks. Les salariés partiront donc de la Seine-Saint-Denis pour rejoindre les Hauts-de-Seine, à Nanterre ou encore à Levallois-Perret. Conséquence, Célestin Bougère, de l'insécurité qui sévit dans le quartier.
Au pied du bâtiment de 6 étages, beaucoup de salariés disent ne pas se sentir en sécurité. Pour Xavier, un déménagement s'imposait.
C'était dans la discussion depuis 6 mois, un truc comme ça, oui.
Et quelles raisons vous donne à ce déménagement?
Principalement, c'est par rapport à l'insécurité. Vers 18h, il y a des agents qui doivent accompagner les collaborateurs vers la gare et tout.
Des agents de sécurité qui escortent les salariés de BNP Paribas jusqu'au RER, comme c'est le cas pour d'autres sociétés dans le quartier. Il faut dire qu'à quelques dizaines de mètres, des prostituées rencontrent leurs clients, des toxicomanes traînent dans la rue. Certains se droguent devant nous, me glissent. Un salarié. Ephraim a déjà vécu une situation difficile avec l'un d'eux en sortant du travail.
La personne m'a demandé des sous. Je lui ai dit que je n'en avais pas, mais la personne a insisté. La personne a commencé à m'injurier. Pour le sexe féminin, par exemple, ça peut être plus compliqué.
Sylvie habite dans le quartier depuis 20 ans. Voir partir BNP Paribas est pour elle un très mauvais signe.
Ça m'embête beaucoup. Si des grosses sociétés comme ça s'aperçoivent qu'ils ne sont pas en sécurité, les citoyens, qu'est-ce qu'ils doivent penser de la ville, quoi? Les magasins ferment un à un et là, ça devient vraiment désert, quoi.
Contacté par RMC, BNP Paribas assure que ce déménagement n'est pas motivé par un manque de sécurité. La banque souhaite officiellement privilégier des immeubles dont elle est propriétaire.
Et prudence si vous prenez la route ce soir ou ce week-end. Il s'annonce compliqué selon le ministre des Transports à cause de la neige et du verglas qui concerne 79 départements placés en vigilance jaune neige qui a déjà commencé à tomber, notamment dans l'Orne, dans le Calvados, Lyon ou encore la Vienne. Il est 7h35 sur RMC et il appelle les Marseillais à se soulever contre le narcotrafic. Benoît Payan veut voir du monde demain à la Marche Blanche en hommage aux frères du militant Amine Kessassi assassiné la semaine dernière. Un drame qui a fait réagir jusqu'à l'Olympique de Marseille. Son entraîneur Roberto De Zerbi a tenu à en parler hier en conférence de presse.
Ça m'attriste parce que ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. Je suis italien et je viens d'une ville où il y a eu par le passé des épisodes similaires et ça laisse sans voix. On connaît les problèmes sociaux qu'il peut y avoir à Marseille et nous, on essaye à travers nos performances de donner des satisfactions qui vont au-delà de ce que peut être le football dans d'autres villes. Il y a le match de 90 minutes, mais ici, le foot, ça dure une semaine. C'est malheureux, mais on essaye de faire notre travail le mieux possible.
Marseille qui se déplace sur la pelouse de Nice ce soir en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Un coup d'envoi à 20h45 à vivre évidemment sur RMC. Et puis une sortie musicale aujourd'hui, Mathieu. On parle beaucoup depuis ce matin de l'album de Daya Nakamura, mais il y a aussi This Is, le rappeur, qui dévoile son 14e album, On s'en rappellera pas, sur lequel on trouve un duo plutôt inattendu avec Laurent Voulzy.
Tu t'es mis au surf, t'as passé la barre, et t'as bu la tasse. T'as cherché les vagues, t'as trouvé les vagues, t'as surfé les vagues, voilà, tu es beau.
Surfeur, donc, c'est le titre de ce duo entre This Is et Laurent Voulzy, un son hyper planant.
Mais j'aime bien, en fait, moi j'avais pas écouté. Bon, j'ai écouté effectivement Yana Kamura et on va en reparler dans la demi-heure.
Et oui, forcément.
Et j'avais pas écouté ça encore, tiens, ça c'est peut-être pour la route du retour.
Exactement, je vous conseille, j'en ai écouté quelques-unes avant le journal et c'est très agréable.
Le Quintet Élise d'Angers, c'est à 20h15 et on est vendredi, c'est en nocturne, oui, à l'hippodrome de Vincennes.
Et donc, voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est l'As Queen's Pride. L'outsider, c'est le 9, Coralia de Crouet.
Merci beaucoup, Élise Dangean. Coralia de
Crouet. Ouais.
C'est le Quintet. Il est 7h37. On va accueillir Alain au 32-16. Alain qui est à Bordeaux, en Gironde. Bonjour Alain.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RMC. Alors, je vois sur ma fiche que vous êtes policier réserviste.
Ouais, c'est ça.
Vous êtes dans la réserve de la police nationale.
Ouais,
et vous réagissez sur le service militaire. On sait qu'Emmanuel Macron va probablement annoncer un retour du service militaire, pas obligatoire. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, Alain?
Oui, tout à fait. Moi, je fais partie de ceux qui, à l'époque, le service militaire était obligatoire. Et ça a gêné personne, en fait. Et je ne comprends pas, maintenant, tout est bon pour faire une polémique de n'importe quoi. C'est incroyable, en fait.
Ouais, vous dites que ça gênait personne, il y a eu des mouvements, des mobilisations pour l'abolir. Et d'ailleurs, l'armée elle-même, à l'époque, n'en voulait plus.
Ah oui, mais pourtant, moi, je fais partie de ceux qui l'ont fait, hein, et ça avait plusieurs personnes, et c'était très bien, ça a permis de remettre les choses en place, et ça faisait corps. Et puis, c'est une façon aussi de défendre un peu la France. On est dedans, on vit dedans, il y a quand même des choses à faire.
Il y a des choses à faire. Vous avez entendu le général Vincent Desportes tout à l'heure, il disait pas toute une classe d'âge, pas tout le monde, on n'est pas là pour former tout le monde, on n'en a pas les moyens, mais... 10 000 au début, peut-être une cinquantaine de milliers ensuite. Avoir des jeunes qui s'engagent, quoi, Alain. C'est ça que vous soutenez?
Ben, tout à fait, exactement. Mmh. Il faut bien qu'on protège un peu nos biens.
Vous avez des enfants, Alain?
Nos femmes. Oui, tout à fait. Oui,
ils pourraient être. Je ne sais pas quel âge ils ont, vous avez 54 ans, vous, Alain, mais ils pourraient, dans l'absolu, s'engager dans l'armée, comme vous l'avez fait.
En fait, c'est un choix personnel. Chacun va définir s'il a envie ou pas. Mais il faut quand même, à un moment donné, on puisse aussi défendre nos familles, nos enfants, tout ce qui va autour de nous. En fait, c'est normal.
Merci beaucoup, Alain. Merci d'avoir pris part au débat ce matin. Ça fait partie des débats du jour. C'est le débat de la fin de semaine sur l'armée. Alors, il y a le service national dont on parle ce matin. Il y a les propos du chef d'état-major des armées aussi. Depuis quelques jours, quelques heures, on est en débat. Alors, débat un peu hystérisé dans la classe politique parfois, mais vous, votre sentiment, se préparer à perdre nos enfants, on continue d'en parler ce matin. Et Didier François, expert défense de BFM TV, sera l'invité du face-à-face à 8h30 tout à l'heure au micro de Laurent Neumann. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Tout autre chose, le marché immobilier redécolle enfin. Primo-accédant de retour en masse, les taux en baisse. Bonjour Sandrine Allonnier.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Vous Financer et des agences immobilières L'Adresse. C'est le bon moment pour acheter, pour vendre, pour investir? Vous nous répondez dans une minute.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h43, bon réveil à l'écoute d'RMC. Le marché immobilier repart nettement, plus 11% d'acheteurs selon PAP. Retour massif des primo-accédants, des crédits qui redécollent après 2 ans de repli. Est-ce vraiment le redémarrage? Bonjour Sandrine Allonnier.
Bonjour.
Alors vous êtes porte-parole de Vous Financer et des agences immobilières L'Adresse. C'est bien avec vous, on est côté agent immo et côté financement, il manque plus que le notaire. C'est l'info, sans assommer nos auditeurs de chiffres après une période franchement morose, on assiste à un vrai retour des acheteurs.
Oui, là cette année on a eu environ 10% de plus d'acheteurs, et surtout ça c'est lié grâce au redémarrage des crédits immobiliers. Il y a eu 40% de crédits immobiliers en plus cette année que l'année dernière, donc on a eu des banques qui ont voulu prêter, qui ont été moins exigeantes, notamment sur l'apport personnel, c'est sur l'épargne qu'il faut pour pouvoir acheter. Et résultat, des gens qui voulaient acheter pour se loger plutôt que de payer un loyer, qui sont revenus sur le marché parce qu'ils en ont eu la capacité grâce à la baisse des taux.
Alors Sandrine Allonnier, je voudrais quand même qu'on le souligne bien. Effectivement, les taux sont repassés de 4,3 à 3,3%, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait. Ça fait un point de moins, mais c'est pas négligeable. Oui, parce que quand on peut rembourser 1 500 € par mois, eh bien on peut emprunter 22 000 € de plus qu'il y a 2 ans. Donc on passe de 240 à 263 000 €, mais c'est 20 000 € de plus. C'est soit ce qui va permettre d'acheter, soit de pouvoir acheter la pièce en plus qu'il faut pour faire un enfant, etc. Donc ça a vraiment permis de déclencher des actes d'achat de gens qui attendaient parce qu'aujourd'hui, c'est une façon d'avoir d'être sécurisé, d'avoir un toit sur la tête, on veut encore devenir propriétaire.
Alors avec 22 000 €, on n'achète pas une pièce en plus à Paris, mais on a quand même des villes qui sont franchement dynamiques. Nantes, plus 20%, Montpellier, 17%, Marseille, 14%, Lille, 13,4%. Dans le détail, ce qui est intéressant, c'est qu'on achète son logement. Ce sont les primo-accédants, les secondo-accédants qui dopent le marché. En revanche, on est à la peine pour ce qui est de l'investissement.
Oui, oui, tout à fait, puisque vous le voyez bien, ça fait maintenant un an et demi qu'il y a eu la première dissolution. On est dans un contexte politique très instable. On n'a pas de visibilité sur ce qui peut être fait pour aider les investisseurs, sur la taxation de l'immobilier. Donc, résultat, les investisseurs, dans ce contexte-là, quand ils n'ont pas de visibilité, ils préfèrent attendre pour acheter. Alors que ceux qui, de toute façon, ont un projet de vie, de déménager, de divorcer, de faire un enfant, eh bien, eux achètent quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on a un marché immobilier résilient. Et ceux qui ont voulu acheter pour se loger ont été au rendez-vous en 2025, mais dans les villes plutôt raisonnables, c'est-à-dire là où on peut acheter avec 15-20 000 euros d'apport, là où on peut acheter des biens de moins de 300 000 euros, donc c'est-à-dire des villes où les prix sont à moins de 3 000 euros de mètre carré, et c'est celles-là qui vont vraiment le plus redémarrer. Mais le problème qu'on a...
J'ai deux questions. Je crois que vous allez répondre à ma question. Allez-y.
Le problème qu'on a, c'est que tant qu'il n'y a pas d'investisseurs, des gens qui achètent pour que les gens puissent louer, eh bien là, le marché reste bloqué, puisque évidemment, tout le monde ne peut pas devenir propriétaire. Donc, il faut des gens aussi qui achètent pour louer leur logement, pour loger les locataires, bien sûr.
D'un mot, si le marché repart, ça veut dire que les prix aussi ?
Oui, c'est le problème, hein. Vous connaissez évidemment, dès qu'on dit « ah, ça repart », les vendeurs disent « ah, bah finalement, je vais pas baisser mon prix ». Donc là, de nouveau, on a des frictions avec des offres qui sont faites sur des biens, mais qui sont pas acceptées par les vendeurs qui sont trop gourmands. Donc voilà, le conseil qu'il faut donner, c'est le gouvernement, on veut de la stabilité, de la visibilité, au moins pour 2-3 ans sur le marché immobilier. Et puis, les vendeurs, ne soyez pas trop gourmands, puisqu'il y a des gens qui veulent acheter pour se loger, et il faut le faire au bon prix.
Vous savez tout sur cette éclaircie et vous entendez aussi l'enthousiasme des professionnels. Merci Sandrine Alonier, porte-parole de Vous Financer et des agences immobilières L'Adresse. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur RMC. Il est 7h47.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Marseille marche demain contre le narcotrafic et Emmanuel Macron accuse les consommateurs sont complices des narcos. Alors faut-il légaliser le cannabis ? Le débat a resurgi cette semaine et c'est le débat voix de droite, voix de gauche. Charles Consigny, bonjour.
Bonjour.
Face au député Benjamin Lucas, bonjour.
Bonjour.
On se retrouve dans une toute petite minute sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h48, le bonus RMC, Martin Bourdin avec Aya Nakamura qui est de retour avec un nouvel album. Il s'appelle Destiné, cet album. C'est le cinquième de la carrière d'Aya Nakamura. 18 titres, tous disponibles donc depuis ce matin. Alors certains avaient déjà été dévoilés, hein, le dernier en date avant-hier, celui que vous entendez derrière moi. No Stress, vous allez aussi pouvoir retrouver l'un des tubes de l'été d'Aya Nakamura, Badiz. Une
des attitudes de Badiz.
C'est l'un des 5 titres qu'Aya Nakamura interprète en collaboration avec un autre artiste sur cet album. Ça faisait 2 ans que les fans de la chanteuse attendaient cette sortie. C'est d'ailleurs avec cet album qu'Aya Nakamura va partir à l'assaut du Stade de France les 29, 30 et 31 mai prochains. 3 concerts, mais déjà plus aucune place. Aya Nakamura qui sera aussi, on l'a appris cette semaine, l'une des têtes d'affiche des Francofolies. Ce sera donc à La Rochelle au mois de juillet prochain.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Vous êtes Marseillais, appelez-nous ce matin. Allez-vous marcher demain contre le narcotrafic ? On parle évidemment de la guerre contre le narcotrafic longuement cette semaine. Emmanuel Macron a pointé la responsabilité des consommateurs. Mais il y a ce débat qui a resurgi, un vieux débat. Faut-il légaliser le cannabis ? C'est le débat voix de droite, voix de gauche avec Charles Consigny face au député Génération Benjamin Lucas. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce qu'il faut légaliser ? Est-ce que c'est la solution ? Je vais commencer par vous, Benjamin Lucas, le nouveau dans la bande ce matin.
Je crois, oui. J'entendais les déclarations d'Emmanuel Macron. Il parle comme tous ses prédécesseurs depuis un demi-siècle. Et la politique de prohibition, la politique de répression qu'on mène, elle coûte très cher. Elle ne produit pas ses effets. Nous sommes le pays qui réprime le plus en Europe la consommation de cannabis. Et nous sommes en même temps, cher au président de la République d'ailleurs, le pays qui consomme, où il y a le plus de consommation de cannabis. Ça prouve l'échec de cette politique publique. Et donc le fait qu'il faut repenser complètement, faire complètement autre chose. On peut pas se permettre, encore une fois, de slogans, d'effets d'annonce, de se faire des peintures de guerre sur le torse pour dire répression, répression. Et laisser les narcotrafiquants prospérer, laisser ce problème de santé publique majeur que sont les addictions aux drogues.
Charles ?
C'est paradoxal de parler de problèmes de santé publique avec les addictions aux drogues et de vouloir légaliser les addictions aux drogues. Ça me paraît un peu spécial. Moi, je me suis rendu il y a pas très longtemps à New York, aux États-Unis, qui a légalisé la consommation de cannabis. Et ben, la ville est devenue une espèce de ZAD, avec une espèce d'odeur de cannabis, de weed, comme disent les jeunes, ou de shit, ou de tout ce que vous voulez, partout dans les rues, et une population qui est en train de s'abrutir à grande vitesse avec le cannabis. Parce qu'il faut dire les choses, je sais que à gauche, on a une certaine complaisance avec la consommation de cannabis, forcément, puisque comme c'est une drogue qui vous ramollit, qui détruit votre ambition, qui vous cloue dans votre canapé, eh bien, vous finissez par voter à gauche parce que vous vous en prenez aux autres pour votre propre malheur dont vous êtes le seul responsable. Et je suis désolé, moi je connais un certain nombre de gens qui ont fumé du cannabis ou qui en fument habituellement et qui le font d'ailleurs en trouvant ça sans doute très chic, très cool, très bobo, très tout ce que vous voulez. Ils ont perdu des points de QI. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça ne rend pas service aux gens.
Est-ce que vous m'avez entendu dire autre chose ?
C'est une politique de préservation des cerveaux des Français. Et donc, il faut évidemment s'opposer à la consommation.
Et donc, inspirons-nous, par exemple, de ce qu'on a réussi à faire sur le tabac. On a des politiques aujourd'hui de prévention, des politiques de santé publique qui font qu'on réduit la consommation de tabac dans notre pays. Or, ce que vous dites est vrai sur les effets du cannabis. Moi, je viens pas ici vous dire, il faut fumer du cannabis.
Donc, qu'est-ce que vous proposez? Le cannabis à 25 euros le joint.
Je trouve l'humour assez déplacé sur ce sujet. Je suis moi-même.
Ça, je sais qu'à gauche, on n'a pas d'humour.
Oui, mais là, pardon, demain, moi, je serai à Marseille pour cette marche blanche. Le narcotrafic aujourd'hui, les narcotrafiquants se permettent de tuer des gamins jusque dans nos rues. Là, effectivement, la question de l'addiction aux drogues, c'est une question de santé publique majeure.
Et donc, vous voulez
dans
faire
la
quoi
jeunesse
par rapport
et pas seulement.
Tabac.
Et donc, ce que je constate, monsieur, c'est vous êtes un homme de droite.
Le joint à 25 très attaché, euros, 30 euros, 100 euros.
Je termine, je ne vous ai pas interrompu. Je vous entends régulièrement parler de l'efficacité de la dépense publique, l'efficacité des politiques publiques. Souvent, vous avez tort, parfois, vous avez raison. Là, je ne vous entends pas regarder l'efficacité de cette politique publique. On injecte des centaines de millions d'euros d'argent par an dans la répression et ça ne marche pas. Nous sommes le pays qui consomme le plus de cannabis. Moi, je veux faire baisser
l'impunité pour les consommateurs.
Pardon, moi, je veux faire baisser la consommation des drogues et notamment la consommation de cannabis.
Mais comment
on fait ? Voilà. D'abord, je vais vous dire qui est le plus hostile aujourd'hui à la légalisation du cannabis. Ce sont les cartels, ce sont les trafiquants parce que nous allons assécher ainsi un marché, une criminalité qui s'organise, qui prospère du fait de la prohibition. Et ensuite, nous allons pouvoir dégager des recettes, un encadrement, des contrôles qui permettront de mener une véritable politique de santé publique.
C'est pas comme ça,
de faire comme vous le faites
pratique.
Comme ça, des slogans,
mais allez
des
voir à New York,
passifs,
comment
ça marche
c'est
pas.
Allez voir à New York, ça sent la weed partout.
Écoutez,
moi je ne veux pas de ça à Paris.
Votre enquête est sans doute très scientifique.
Allez-y, vous verrez, il suffit de se balader dans les rues.
Je voudrais vous faire écouter Emmanuel Macron cette semaine quand il a dénoncé justement la complicité des consommateurs. Vous parliez des consommateurs, Charles Consigny, on écoute le président de la République.
Acheter de la cocaïne, du cannabis, ça n'est pas simplement un plaisir qu'on peut s'offrir, il est déjà interdit. C'est de fait être complice et donner du financement à des réseaux de criminalité organisée.
Alors je passe sur le fait qu'il était à Berlin, il parlait en terre où c'est légalisé en l'occurrence, mais... Vous dites, Charles Consigny, il faut taper plus fort, plus dur sur les consommateurs.
Je suis allé à Berlin, pardon, ça sentait pas la weed partout. Hein. Je dis à monsieur Consigny, puisqu'il parle de New York, je suis allé à Berlin plusieurs fois, y compris récemment. J'ai pas eu le sentiment que les gens étaient complètement dégénérés.
J'irai voir.
Allons-y ensemble.
Non, mais j'irai voir, mais franchement, enfin. On voit bien l'effet que ça fait sur les populations, donc et sur les individus.
Et personne ne dit le contraire, et pas
mais
moi.
Si, mais
moi, je propose
mais
de lutter efficacement
mais
et pragmatisme.
Vous légalisez,
vous proposez de faire des slogans.
Écoutez, moi, j'ai vu par exemple une ville avant, après légalisation, j'ai vu l'explosion de la consommation après la légalisation. C'est mécanique. Donc, je pense
que Monsieur Consigny, pardon, parce que la différence, c'est que les Américains, ils sont comme vous, sont des libéraux qui veulent pas réguler, qui veulent pas encadrer, qui veulent pas contrôler. Moi, je suis pour un marché régulé, contrôlé, encadré, notamment sur la vente. Sur les filières de production, accompagné d'une grande politique de santé publique. Vous reconnaîtrez comme moi que la santé publique aux États-Unis, c'est pas la même chose que chez nous.
Oui, il faut arrêter avec la santé publique en France comme si c'était génial. Personne n'imite notre modèle, personne d'autre dans le monde n'a la carte vitale. Donc il faut arrêter de faire comme si c'était le seul modèle possible.
C'est vrai que c'est un bon modèle auquel on est tous attachés.
Mais le modèle social que le monde entier nous envie, tu parles. Je réponds à votre question. On a une politique, effectivement, aujourd'hui, là on peut se rejoindre, qui est déséquilibrée. Pourquoi ? Parce que on est extrêmement dur avec les trafiquants de drogue, et on a raison de l'être, mais c'est l'impunité totale chez les consommateurs. Et y compris chez les consommateurs, membres du monde politique, des rédactions des journaux, des gens que vous croisez.
Dans on a entendu parler des bourgeois
non,
de
non,
centre-ville.
Oui, oui, mais il a raison, il a raison de le dire. C'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie de beaucoup de gens. Alors c'est vrai que maintenant, le fléau est tel que ça s'étend jusque aux pêcheurs, jusqu'aux gens qui en prennent pour travailler dans des secteurs les plus variés du monde. Voilà, c'est quelque chose qui s'est beaucoup généralisé. Pourquoi ? Parce que vous ne risquez rien aujourd'hui en France à acheter et consommer de la drogue. Il faut dire les choses comme elles sont.
Pardon, moi, j'ai fumé un joint de ma vie, mais vous allez
là-dessus, je serai effectivement de droite jusqu'au bout. Je pense effectivement qu'il faut établir des sanctions financières et pénales extrêmement dissuasives pour les consommateurs. Et là, on aura peut-être une chance de faire baisser la consommation.
Je vais utiliser un argument de droite. Vous êtes comme moi attaché à l'autorité et à la force de la loi. Une loi, une législation qui est à ce point bafouée parce qu'en réalité, on pénalise aujourd'hui l'usage du cannabis, ça n'empêche pas une consommation exponentielle énorme. Est-ce que ça ne dit pas aussi, est-ce que ça ne contribue pas, est-ce que ça ne contribue pas aussi à affaiblir la force de la loi, sa puissance et le message que nous envoyons? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de concentrer nos efforts, nos moyens financiers sur une vraie politique de prévention, de santé publique qui permet d'expliquer à nos gamins dans les écoles que ce n'est pas bien de fumer, que ça peut effectivement
si
ramollir le cerveau?
Produit, est-ce qu'on ne devrait pas faire ça?
Le tabac est légal, l'alcool est légal et pourtant on explique à nos mômes, on explique
légal dans avant,
c'est dangereux de fumer des cigarettes et que c'est dangereux de picoler, évidemment.
Merci messieurs, Benjamin Lucas, député Génération, la voix de gauche ce matin. Merci Charles Consigny, qu'on retrouve dans les GG tout à l'heure.
Non,
pas ce matin. Lundi, juste pour nous ce matin, Charles. Et dans les GG
lundi. J'ai fait un effort, la mère qui se lève tôt le matin, merci, elle est là.
Il est 7h56 sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.